Chapitre 10. Le jeudi matin eut lieu l'enterrement de Barbara Roussel à l'église Saint-Calixte de Lambersart. Les orages que l'on pressentait depuis plusieurs jours avaient éclaté durant la nuit, déversant des trombes d'eau et, en ce milieu de matinée, ils rôdaient encore dans un ciel d'encre. Malgré ce mauvais temps, de nombreuses personnalités régionales, tant du monde politique que du milieu des affaires, étaient venues plus par amitié pour Tillier que pour la victime, qu'il ne connaissait pas. Curieusement, la plupart, pour garder l'incognito ou pour imiter les stars du showbiz, portaient des lunettes noires, ce qui, joint à leur costume et cravate sombre, donnait l'impression qu'on tournait un film sur les obsèques d'un parrain en Sicile, le soleil en moins. Pour compléter l'illusion, des policiers se mêlèrent à la foule, à l'église comme au cimetière, prenant plus ou moins discrètement des photos, à l'affût de tout individu mâle ou femelle, au comportement bizarre, qui aurait eu en plus le bon goût de s'appeler Claude Gauvin. Ils ne trouvèrent pas l'oiseau rare. Pro identifia seulement une bonne partie des invités du dimanche précédent qui, à la sortie de l'église, discutaient entre eux sur le parvis, comme 4 jours avant dans le jardin. Georges Callot vint à la messe et se mit dans les derniers rangs, jetant des coups d'œil inquiets autour de lui, comme s'il redoutait d'être arrêté à la sortie. Mélanie Fougaille, un peu en retrait de la famille, pleurait derrière ses lunettes de soleil. Georgette Lecoeur, à la tête d'une forte délégation de l'entreprise, avait le regard fixé sur Jean Tillier. Ce dernier resta debout pendant tout l'office, la tête droite, les yeux évitant le cercueil, tandis que Rebecca, à ses côtés, avait les épaules secouées de sanglots. Les deux enfants n'étaient pas là. Les Tilliers avaient dû les juger trop petits pour cette lugubre cérémonie. Preux, qui enregistrait tous ces détails, ne manqua pas de noter aussi la présence de Claire Louvier dans une des allées latérales. Elle était là à titre professionnel, comme l'indiquait son appareil photo. Toutefois, au cimetière, elle tint à jeter elle aussi une rose dans la fosse, sur le cercueil, et Preux vit qu'à ce moment-là, elle avait le visage défait. La fin des condoléances fut hâtée par le déclenchement d'une averse orageuse, dont la violence fit refluer précipitamment l'assistance vers les voitures, dans une folle débandade. La dernière image que Preux eut devant les yeux, avant de courir s'abriter sous un arbre, fut celle de Jean Tillier qui, tête nue, restait immobile près de la fosse, dégoulinant de pluie, à la fois pathétique et ridicule. Pendant ce temps, Boulanger, muni d'un mandat de perquisition, se rendit chez Damien Restoux. Il était accompagné de quelques policiers rompus à ce type d'exercice. Néanmoins, ils eurent beau passer l'appartement au peigne fin, ils ne trouvèrent pas de couteau à cran d'arrêt ni de poignard correspondant à la description faite par le docteur Fruleux de l'arme utilisée par l'assassin. Les seuls couteaux présents dans le tiroir de la cuisine avaient la lame tellement élimée qu'ils n'auraient pas, selon le mot d'un policier, coupé une merde de chien. Ils ne mirent pas non plus la main sur un document intéressant, comme un journal où Restoux aurait confié son intention de se venger de Barbara, ou sur un objet compromettant qui aurait appartenu à cette dernière, comme un bijou dont il se serait emparé après le meurtre. D'ailleurs, cette dernière hypothèse était hautement improbable, les proches de la jeune fille n'ayant signalé aucune disparition de la sorte quand ils avaient vu le cadavre. Quant au nouvel interrogatoire auquel fut soumis Restoux ce jeudi matin, il n'eut pas plus de résultats. Le jeune homme, qui, par rapport à la veille, paraissait avoir retrouvé une bonne partie de son calme en même temps qu'une détermination nouvelle, n'admit rien de plus que ce qu'il avait avoué la veille. Et Monin et le Mailleux, pourtant expérimentés, eurent l'impression d'être face à un mur. Bref, l'enquête semblait piétiner à nouveau. Alors que Boulanger s'apprêtait à quitter l'appartement de Restoux, il reçut un appel sur son portable. « Raymond, c'est moi, André. Qui ?»« André Louberg, ton collègue. Je t'appelle du bois de Boulogne. » Était-ce à cause de l'orage qui avait repris et brouillé les communications? En tout cas, Boulanger entendait mal. Il y avait plein de grésillements ainsi que d'autres bruits de voix qui couvraient celle de son interlocuteur. « Oui, André !» Il fronçait les sourcils dans un effort pour mieux entendre. « Peux-tu rappliquer tout de suite ?»« Oui, un meurtre. Lien avec ton affaire. » Il ne put saisir que ces quelques mots. Ensuite, il n'y eut plus que des chuintements et des craquements. Il voulut appeler la PJ, mais la communication était inaudible. Il calcula qu'il aurait aussi vite fait de s'y arrêter, de toute façon, c'était sur sa route. Dehors, le tonnerre grondait et il pleuvait à seaux. Les feux de circulation ne marchaient plus et les voitures roulaient au ralenti en charriant des gerbes d'eau. Boulanger eut beau courir quand on le déposa au vol devant l'immeuble de la PJ, quand il entra dans le hall, son veston était trempé. Le préposé à l'accueil le héla pour le prévenir que le commissaire Zunkin demandait à le voir au plus vite. Ah, Boulanger, je vous attendais. Alors, cette perquisition. Chou blanc sur toute la ligne. Tant pis, il fallait la faire, on l'a faite. Mais franchement, je n'en attendais rien. Même si c'est cet étudiant le coupable, il aurait fallu qu'il soit particulièrement stupide pour laisser traîner chez lui l'arme du crime 3 jours après. Le ton était jubilatoire. Boulanger se souvint que, la veille au soir, quand il était venu relater à son supérieur l'interrogatoire de Restoux, le commissaire lui avait dit son éternel sourire aux lèvres. C'est bien, Boulanger, allez-y, foncez. Mais franchement, je ne le sens pas bien, votre étudiant. Et maintenant, il poursuivait franchement hilar. Mais je ne vous ai pas fait venir uniquement pour cela. Le commissariat central de Lille nous a prévenu il y a une bonne heure qu'un cadavre suspect avait été découvert au bois de Boulogne. J'y ai envoyé Louberg, qui était disponible. Il m'a rappelé récemment pour me dire qu'il avait découvert quelque chose en lien avec l'affaire Roussel. Je ne peux pas vous en dire plus car la liaison était épouvantable et nous avons été coupés. Il a essayé de me joindre aussi, mais c'était pareil. J'entendais très mal et puis la liaison a été interrompue. J'ai juste eu le temps de comprendre qu'il me demandait de venir. Eh bien, je constate que nous en savons aussi peu l'un que l'autre. Il ne vous reste plus qu'à aller le rejoindre. Et n'oubliez pas de prendre un parapluie. Cette fois, elle s'étranglait presque de rire face au sourire crispé de Boulanger. Celui-ci, en sortant du bureau, partit à la recherche des membres de son équipe. Mais Monin et Lemayeux continuaient d'interroger Restoux, et ils ne voulaient pas les déranger. Quant à Preux, il n'était pas encore revenu de l'enterrement. Il partit donc seul, demandant qu'on dise à ce dernier de le rejoindre sur place. La pluie tombait toujours, mais faiblement. Les coups de tonnerre devenaient sporadiques. L'orage s'éloignait. De temps en temps, des éclairs trouvaient encore le ciel, éclairant des nuages noirs. En arrivant au bout du boulevard de la Liberté, Boulanger se rendit compte qu'il ne savait pas à quel endroit exact du bois de Boulogne il devait aller. Il prit le long de l'esplanade, tout en jetant des coups d'œil à sa gauche, et dès le pont du Petit Paradis qui enjambait la Dole, il vit des gyrophares plus loin près de l'écluse, là où le bois s'incurvait vers Lambersart. 100 mètres plus loin, à hauteur du stade Grimont-Préjoris, un agent de police qui portait un gilet fluorescent sur son imperméable filtrait les arrivants. Il reconnut Boulanger qui le laissa passer. Celui-ci arrêta son auto derrière 5 voitures de police, 2 de patrouille et 3 banalisées, garées n'importe comment, certaines les portières encore ouvertes. Au volant de l'une d'elles, un policier en tenue tentait d'utiliser la radio interne. Il devait y avoir toujours les mêmes perturbations, car Boulanger le voyait secouer le flexible du micro en jurant. Un autre gardien de la paix, après avoir salué le commandant, lui montra une trouée dans le bois. De toute façon, il ne pouvait se tromper. À une cinquantaine de mètres, on apercevait toute une agitation, des lumières qui clignotaient, des ordres qu'on lançait. Il s'engagea dans un sentier étroit. Il eut tout de suite le bas du pantalon trempé par les fougères, ce qui lui procurait une sensation particulièrement désagréable au niveau des chevilles. Il n'était que 13 heures, mais sous ce ciel d'encre, dans ce bois sombre, on aurait presque pu se croire la nuit. À un moment, il dut s'arrêter et rester dans l'herbe des bas-côtés, pour laisser passer 3 personnes qui revenaient vers les voitures. L'une d'elles était le docteur Fruleux, qui grommela un vague salut en le croisant. Enfin, le sentier s'élargit en débouchant sur une petite clairière. On y avait installé 2 projecteurs, dans le faisceau desquels la pluie formait de fines stries argentées. En comparaison de ces larges tranches de lumière crue, les minces faisceaux jaunes de torches paraissaient ridicules. Un individu corpulent, au crâne dégarni, se détacha d'un groupe et vint serrer la main de Boulanger. C'était Louberg, commandant de police comme lui. Sans mot dire, il le mena à la bordure de la clairière, vers un taillis d'herbes et de ronces, où confluaient les rayons des projecteurs. Là, un homme, presque invisible du chemin, était allongé par terre, sur le dos. Boulanger, pourtant habitué à des spectacles pénibles, eut un haut le cœur. Le visage de l'individu était réduit à l'état de bouillie, où le rouge des chairs sanguinolentes contrastait avec le blanc laiteux des esquilles d'os. La face semblait s'être rétractée, comme un ballon de baudruche dégonflé, si bien qu'on ne distinguait plus ni nez ni bouche dans ce masque grotesque. D'après Fruleux, on lui a fracassé le crâne avec un objet contondant, genre marteau. Et puis l'assassin s'est acharné sur le visage, dit Louberg. Acharné? Le mot n'est pas trop fort. À ton avis, pourquoi s'est-il défoulé ainsi? Boulanger haussa les épaules. Sadisme, rage, volonté de freiner l'identification du cadavre, il pouvait y avoir toutes sortes d'explications. Il détacha son regard du visage pour détailler le corps. L'homme était de taille moyenne, il portait un imperméable gris, un t-shirt kaki, un jean bleu marine, des chaussures de sport. À première vue, l'ensemble ne respirait pas l'opulence. Il dut s'écarter. Les hommes de la police scientifique et de l'identité judiciaire se livraient au balai habituel. On aurait pu les croire insensibles, mais Boulanger savait que c'était faux. Eux aussi, devant un tel carnage, éprouvaient dégoût, révolte et compassion. Mais comme les infirmières et tous ceux et celles qui voient souvent les morts, ils étaient obligés de s'endurcir pour tenir. Quelqu'un derrière lui cria: Dépêchons les gars, ça va encore péter! Effectivement, les grondements de l'orage s'intensifiaient à nouveau. Alors que Louberg l'emmenait un peu à l'écart, Boulanger aperçut Preux qui arrivait. Son blouson de jean était trempé et il semblait frigorifié. Boulanger lui fit signe et il se joignit à eux. C'est le père Robillard qui l'a trouvé ce matin entre 9 h et 10 h, leur dit Lauberg. Il promenait son chien. Plein comme il l'était, il ne l'aurait sans doute pas vu. Mais le chien a tiré sur sa laisse et l'a emmené devant le corps. Le père Robillard était un SDF de près de 60 ans, qui hantait depuis une bonne dizaine d'années le quartier du Vieux-Lille. Il dormait dans des squats, des entrées d'immeubles ou l'été sur un banc. Et quand l'hiver se faisait trop rude, il acceptait d'aller dans les centres sociaux. Il vivait de mendicité et de petits boulots. Ainsi, pendant quelques mois, Boulanger l'avait vu près du SRPJ, déjà bien imbibé à 9 h du matin, signalant aux automobilistes les places libres dans le boulevard de la Liberté. Sa longue barbe de prophète, sa gouaille et son chien dont il ne se séparait jamais, en avaient fait une figure lilloise. Séduite par le pittoresque du bonhomme, FR3 lui avait même consacré un reportage dans son journal régional. Loubert poursuivit. Quand on nous a prévenus, on a tout de suite pensé, vu l'endroit, à une bagarre ou un règlement de compte entre PD. Mais en cherchant ses papiers d'identité, on a trouvé cela plié en quatre dans une des poches du jean. Il tendit à Boulanger un article de presse accompagné d'une photo que l'on avait déjà mis sous pochette plastique, pour les empreintes, et braqua dessus sa torche pour permettre aux deux hommes de lire. La texture du papier indiquait que l'article provenait d'un quotidien. Quant au contenu, c'était l'annonce des 70 ans de l'imprimerie Tillier et des différentes manifestations prévues pour cette commémoration. Il n'y avait pas de date, mais Boulanger estima à vue de nez qu'il remontait à une dizaine de jours. La photo en noir et blanc représentait Jean Tillier se faisant remettre une décoration à la Chambre de commerce et d'industrie. À l'arrière-plan, on distinguait Georgette Lecœur et Barbara Roussel. Le visage de cette dernière avait été entouré avec un feutre rouge. Juste en dessous, on avait écrit et souligné: B. Roussel, la salope. Au bas de l'article était noté avec le même feutre rouge l'adresse de la Villa Louise à Lambersart. Effectivement, c'est troublant, dit Boulanger en rendant la pochette à Louberg. Qui est ce type? On n'en sait rien. Il n'avait aucun papier sur lui, à part l'article et la photo. Cela va être au gars de l'IJ de nous le dire. Le maçon, le substitut du procureur, était arrivé. Il se tenait debout, seul et raide, au milieu de la clairière, et tournant la tête de tous côtés d'un air impatient. Tel quel, il détonnait dans le décor. On aurait cru un employé de la City attendant son bus en retard à Londres. Justement, les trois policiers, en parlant, revenaient vers le mort, passés dans la lumière des projecteurs. Dès qu'il les vit, le maçon leur fit signe. Boulanger, c'est vous que je voulais voir. Loubert vous a mis au courant pour l'homme? Il fit un geste du menton accompagné d'une mine dégoûtée en direction du cadavre. Pour le moment, c'est lui qui est chargé de l'enquête. Mais si la connexion avec l'affaire Roussel se précisait, je vous ferai transférer le dossier. Une nouvelle averse commençait, une pluie de rue qui crépitait sur les feuillages. Preux et Boulanger reprirent le sentier jusqu'aux voitures. Au moment de s'engouffrer dans son auto, Preux vit Claire Bouvier qui discutait avec le père Robillard sous un gros tilleul un peu à l'écart. Il alla vers eux. Que faites-vous là? Dit-il à la jeune femme d'une voix mi-étonnée, mi-courroucée. Mais la même chose que vous, mon métier, lui répondit-elle vivement. C'est plutôt à vous, lieutenant, poursuivit-elle d'un ton suave, qu'il faudrait poser cette question. Je croyais que vous suiviez l'affaire Roussel. Ce meurtre aurait-il un lien avec elle? Preux se mordit les lèvres, ne sachant quoi répondre. Décidément, cette fille était déconcertante. Il n'arriva même pas à sauver les apparences. Mon chef m'attend, excusez-moi, dit-il brusquement. mais Boulanger était déjà parti avec sa propre voiture. Tandis qu'il regagnait trempé et piteux la sienne, Preux sentit le regard ironique dont elle l'enveloppait. De retour au SRPJ, Boulanger et Preux retrouvèrent Monin et le Maheu qui les attendaient pour manger, l'estomac dans les talons car il était plus de 14 heures. Heureusement, le patron de la brasserie de la place Riour, qui accueillait le midi bon nombre de policiers, avait l'habitude de ses clients particuliers et aux horaires souvent décalés, et ils purent s'installer sans problème dans la salle presque déserte que les employés commençaient à nettoyer. Tout en dévorant leur andouillette grillée, la spécialité de la maison, accompagnée d'une montagne de frites propre à calmer les appétits les plus exigeants, les quatre policiers échangèrent leurs informations. D'abord, Preux relata l'enterrement de Barbara. Puis Monin et le Maheu résumèrent l'interrogatoire décevant de Damien Restoux. Enfin, Boulanger, à son tour, rendit compte de la vaine perquisition chez ce dernier et présenta le nouvel élément que constituait peut-être, pour l'affaire Roussel, la découverte du cadavre du bois de Boulogne. En fait, conclut-il, la question qui se pose est celle-ci. Cet homme a-t-il vraiment quelque chose à voir avec le meurtre de Barbara? Moi, dit Preux, j'en suis persuadé. Je me demande même si nous ne tenons pas à la fois Claude Gauvin et l'assassin. Le Maheu eut une moue dubitative. Attention de ne pas prendre nos désirs pour des réalités. Tenons-nous-en aux faits. Vous savez aussi bien que moi que ce secteur du bois devient le soir le lieu de rendez-vous des PD. Pour moi, il s'agit d'un crime sordide qui relève de ce milieu et n'a rien à voir avec notre affaire. Et la coupure de presse? Demanda Boulanger. Le Maheu balaya l'objection d'un geste. C'est juste une coïncidence. Un tas de gens découpent les articles ou des photos qui les intéressent. Cela n'en fait pas pour autant des assassins. L'article et la photo sont antérieurs au meurtre de Barbara. Il ne peut donc s'agir d'un passionné de faits divers, et en particulier d'un de ces collectionneurs morbides de coupures de presse relatant des assassinats, fit remarquer Monin. Et puis, renchérit Preux, comment expliquer les annotations au feutre? Je pense d'ailleurs autant à l'adresse de la villa Louise notée au bas de l'article qu'à l'inscription injurieuse sous la photo. N'est-ce pas le signe que l'individu avait l'intention de s'y rendre et pas pour apporter des fleurs à Barbara? Malgré la gravité du sujet, les autres ne purent s'empêcher de sourire. Ne t'énerve pas, Frédéric, reprit Monin. Moi aussi je suis troublé par ces deux documents annotés retrouvés sur le cadavre. Mais justement, n'est-ce pas la réaction que l'on veut provoquer chez nous? Devant l'air étonné des autres, elle développa son idée. Imaginons que l'assassin de Barbara ait voulu brouiller les pistes. Il a très bien pu glisser ces documents arrangés par ses soins dans la poche de cet individu qu'il venait de tuer mais qui n'avait strictement rien à voir avec Barbara Roussel, pour nous faire croire la culpabilité de ce dernier. Si je te comprends bien, dit Boulanger, le véritable assassin de Barbara aurait fabriqué une fausse preuve, en l'occurrence l'article et la photo annotée, visant à nous persuader que le type trouvé au bois projetait le meurtre de Barbara. Il nous faut alors admettre, ajouta Preux d'un air pensif, que le meurtrier de Barbara n'a pas hésité à tuer une deuxième fois, uniquement pour détourner les soupçons de lui. Exactement, reprit Monin. Je sais, c'est alambiqué, et particulièrement vicieux, et ça paraît relever du roman policier. Mais ça marche, puisque toi, Frédéric, tu as réagi dans ce sens. En outre, ayez à l'esprit que les psychologues experts en criminologie ont montré que, si le premier meurtre est difficile à accomplir, le deuxième l'est beaucoup moins. Il y eut un silence. Chacun digérait l'argumentaire de Monin. Finalement, Boulanger reprit la parole pour recadrer l'enquête. Si séduisante que soit ta théorie, Sylvie, elle reste pour le moment une pure hypothèse. Il faut avant tout que le cadavre du bois soit identifié. Ensuite, on essaiera de découvrir quel lien l'unissait à Barbara et d'établir sa présence à la réception dimanche dernier. Dans le cas d'une manipulation par le véritable assassin de Barbara, ajouta-t-il en regardant Monin, on ne trouvera rien, et pour cause. Et donc, dans ce cas de figure, il nous faudra vérifier l'emploi du temps au moment du meurtre des protagonistes de l'affaire Roussel. En définitive, ils décidèrent de se consacrer tout de suite à cette dernière tâche, puisque de toute façon, il ne fallait pas escompter recevoir quoi que ce soit de Ligy ou des experts de Fromont avant un jour ou deux. Au préalable, Boulanger téléphona au docteur Fruleux pour savoir à quelle heure l'inconnu avait été tué. « Vous êtes un sacré plaisantin, Boulanger, » dit le médecin légiste d'une voix froide. « Le corps n'est même pas encore arrivé ici. Moi-même, j'arrive tout juste de ce maudit bois où je crois avoir attrapé un rhume. »« Ma parole, il est passé chez sa maîtresse entre deux, » pensa Boulanger qui trouvait que Fruleux, comme d'habitude, avait tendance à exagérer. Mais enfin, il était ainsi, et ce n'était pas à 3 années de la retraite qu'il allait changer. Du coup, Boulanger laissa passer 10 minutes de récrimination sur l'alourdissement des charges du métier de médecin légiste avant de revenir à son sujet. Je sais bien que vous ne pouvez pas, en l'état, me donner l'heure exacte. Je vous demande juste une approximation. Il écarta un peu le combiné, histoire de laisser passer de nouvelles bordées de protestations, et le rapprocha de son oreille pour entendre l'essentiel. Compte tenu de toutes les réserves que je viens de vous énumérer, et je ne pense pas beaucoup me tromper en disant que la mort remonte au moins à 12 heures. Eh bien, on y était. Boulanger remercia chaleureusement l'irascible docteur, tout en calculant mentalement. Malgré tous ses efforts, Louberg n'avait pu obtenir du père Robillard une heure précise. Ce dernier vivait depuis longtemps avec des repères temporels et des plus vagues. Les premiers qui avaient été alertés par ces cris, un couple de jokers qui passaient, donnaient l'heure de 9h45. Boulanger estima 15 minutes le temps que Robillard comprenne, ameute et soit entendu. Cela amenait à 9h30. Compte tenu de ce qu'avait dit Fruleux, le meurtre avait eu lieu en fin d'après-midi ou en début de soirée. Cela faisait un prisme large, mais pour le moment, il faudrait s'en contenter. Pendant que Boulanger allait rendre compte des événements de la matinée au commissaire Louberg et que Monin interrogeait une nouvelle fois Damien Restoux avant la fin de sa garde à vue, Preux et Lemayeux allèrent questionner les familiers de Barbara sur leur emploi du temps de la veille au soir. Quand ils revinrent en fin d'après-midi et informèrent l'équipe du résultat de leur mission, il fallut se rendre à l'évidence. Personne ne pouvait fournir pour la veille entre 16 et 21 heures un alibi totalement convaincant. Gentillier avait aidé sa femme pour les préparatifs des obsèques, puis vers 15h30, était repassé à l'imprimerie, d'où il était revenu un peu après 20 heures. Rien ne l'empêchait d'avoir fait un détour par le bois de Boulogne. Georgette Lecœur avait quitté l'imprimerie à 17h30 et avait regagné directement son domicile de la Madeleine, mais elle n'avait personne pour le confirmer. C'est à 17h30 également que Mélanie Fougaille avait laissé la boutique de bijoux à son aide car elle avait rendez-vous chez le dentiste. Effectivement, un coup de fil de ce dernier avait confirmé qu'il l'avait bien soignée et qu'elle avait quitté le cabinet médical à 17h50. Mais pour après, même si elle affirmait être allée au cinéma UGC de la rue de Béthune et pouvoir raconter le film, on n'avait aucune preuve. Elle n'avait pas gardé le ticket et la caissière ne se souvenait pas d'elle. Rebecca Tillier, quant à elle, après quelques formalités relatives à l'enterrement, était allée faire des courses en ville avec une amie à qui elle avait donné rendez-vous à la cafétéria du printemps, dans le centre de Lille à 15h30. Cela était attesté, mais après avoir écumé quelques magasins en commun, elles avaient continué chacune de leur côté. Elle était rentrée chez elle pour 19h30, ce qui était confirmé par la babysitter. Enfin, Georges Callot s'était rendu à un rendez-vous avec un client potentiel dont les bureaux se situaient dans la grande tour au-dessus de Ralille. Un malentendu avait dû se produire dans les dates car le client qui ne l'attendait pas était en déplacement. La secrétaire qui assurait l'accueil se rappelait que Callot s'était présenté devant elle à 17 h, mais le reste de son emploi du temps n'offrait aucune garantie. Il avait flâné dans le centre-ville, avait fait un tour à la FNAC puis au Furet du Nord, avant de rentrer chez lui vers 19h30. En définitive, chacun peut être passé par le bois de Boulogne, soupira Boulanger. Chacun ou aucun, rétorqua Preux. Pour ma part, j'ai toujours du mal à souscrire à la théorie de Sylvie d'un assassin unique pour Barbara et le type du bois. Pourtant, que tu le veuilles ou non, Frédéric, dit Monin en lui souriant, l'absence d'alibi chez les proches de Barbara laisse mon hypothèse parfaitement plausible. À la suite de nos interrogatoires, le meurtrier de Barbara a pu sentir le filet se resserrer autour de lui et a tenté de se donner de l'air en détournant les soupçons sur un autre. C'est vrai, concéda Preux, mais ta supposition pose une nouvelle question. Comment l'assassin a-t-il trouvé son bouc émissaire, l'homme défiguré? Il devait bien le connaître d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que pour réussir à l'attirer dans ce coin du bois à une heure pareille. À moins qu'il ait pris quelqu'un qui s'y trouvait déjà, un PD ou un promeneur complètement au hasard, suggéra Lemayeux d'un ton peu convaincant. En tout cas, lança Boulanger, qui sentait qu'il fallait remonter le moral des troupes. Un qui est disculpé à coup sûr, c'est Restoux, qui était ici hier soir. Au fait, Sylvie, qu'est-ce qu'a donné l'interrogatoire de cet après-midi? Rien, et c'est pourquoi je n'en avais pas parlé plus tôt. Il est exactement calé sur ses déclarations d'hier soir et n'en varie pas d'un pouce. La garde à vue s'achève ce soir, reprit Boulanger. Je crois qu'il va nous falloir le relâcher. Quelqu'un a-t-il une objection à faire? Aucun des trois n'en avait. Bien, je vais en informer le commissaire et le juge d'instruction. Toutefois, si la théorie de Sylvie d'un assassin unique pour les deux homicides est infirmée, et s'il apparaît finalement que le mort du bois n'a rien à voir avec l'affaire Roussel, il redeviendra le principal suspect. C'est pourquoi je vais demander qu'on le surveille discrètement. Pendant que tu y es, Raymond, dit Preux d'un air sombre, demande qu'on les surveille tous, ça nous fera gagner du temps, au cas où il y aura un troisième cadavre. C'était peut-être une plaisanterie, mais elles ne firent personne.